Bonjour et merci d'être venu. C'est mon deuxième séminaire sur cette question-là. Pourquoi croire à un énoncé mathématique dont on n'a pas la preuve ? La semaine dernière, je vous ai donné, à ceux qui étaient présents, quelques exemples de problèmes bien connus dans les mathématiques et les raisons pour lesquelles on pense que la réponse qu'un énoncé est vrai, même si on n'a pas la preuve. Des choses comme l'hypothèse de Riemann, la conjecture de Goldbach, etc. Cette semaine, je vais essayer de parler d'une façon un peu plus générale sur les raisons de croire à un énoncé qui n'a pas une preuve. Et j'ai quatre questions en tête quand je parle de ça. Je vais essayer cette semaine de laisser un peu de temps à la fin pour les questions que je n'ai pas fait la semaine dernière. Excusez la faute d'orthographe dans le mot interprété. Mais comment est-ce qu'on interprète les jugements probabilistes? Ce n'est pas évident. En général, quelles sont les raisons de croire à un énoncé? C'est la question principale. Mais on pourrait même se poser la question, est-ce que ces raisons sont justifiées? Est-ce qu'il est jamais justifié de dire qu'un énoncé dont on n'a pas la preuve est probablement vrai, par exemple? Et finalement, pourquoi c'est quelque chose d'important? Et je vais parler un peu de la dernière question pour commencer. Parce que c'est vraiment important pour les mathématiciens dans leur pratique de faire ces jugements probabilistes. Et il y a beaucoup de raisons pour cela, mais une raison est que souvent, ce qu'on veut faire quand on fait des recherches en mathématiques est d'utiliser quelques assumptions et en déduire quelque chose d'autre. On sait un énoncé P et on veut en déduire un énoncé R. Et on ne sait pas comment le faire. Et souvent, ce qu'il faut faire est trouver un énoncé intermédiaire, Q. Et on veut prouver que P implique Q et Q implique R. Et souvent, si quelqu'un vous donne l'énoncé Q, la preuve que P implique Q est beaucoup plus facile que le problème avec lequel on a commencé, et également la preuve que Q implique R est plus facile. Mais il y a un problème, c'est comment trouver l'énoncé Q. Et pour le faire, souvent il faut réfléchir, bien sûr, mais aussi devenir un peu. Et si on a une idée d'un énoncé Q qui peut servir, il faut faire des jugements probabilistes. Est-ce qu'il est probable que Q est vrai? Est-ce qu'il est probable que P implique Q? Est-ce qu'il est probable que Q implique R? Est-ce qu'il est probable que les preuves sont plus faciles que tout cela? Et parce que si Q est faux, mais il est très difficile de trouver une preuve que Q est faux, on va perdre beaucoup de temps et ce qu'on veut faire quand on est mathématicien, quand on fait des recherches, surtout, est de ne pas perdre trop de temps en cherchant les réponses aux questions qui sont trop difficiles ou essayer de prouver quelque chose qui est faux et choses comme ça. Donc, les jugements probabilistes ont une importance pratique pour les mathématiciens. Je vais commencer par parler un peu des idées de Poya, qui a parlé beaucoup des jugements probabilistes en mathématiques. Ce schéma-là, il veut comprendre les circonstances dans lesquelles on devient plus, on croit un peu plus en un énoncé après avoir vu quelque chose d'autre. Alors, si par exemple on a un énoncé A, on a un jugement probabiliste de la probabilité de A, et on voit que A a une conséquence B, mais B serait assez probable même sans l'aide de A. Et si on voit ensuite que B est vrai, le niveau de confiance en A n'augmente pas beaucoup. Et je peux vous donner un exemple. Si A est la conjecture de Goldbach et B est l'observation que 1 million est la somme de deux nombres premiers, il y a beaucoup de manières, il y a beaucoup de nombres premiers entre 1 et 1 million, donc il est assez probable qu'on peut trouver deux nombres premiers dont la somme est B, et 1 million, je veux dire. Donc, l'observation que c'est vrai que 1 million est la somme de deux nombres premiers n'a pas beaucoup d'effet sur notre confiance dans la conjecture de Goldbach. Par contre, voici un autre schéma de Poya. Si B est une conséquence de A, et B est peu probable en soi, mais on voit que B est vrai, notre confiance en A augmente beaucoup. Et un exemple, la semaine dernière, j'ai parlé du modèle aléatoire des nombres premiers. Le modèle aléatoire nous dit que le nombre de façons d'exprimer 1 million comme la somme de deux nombres premiers est environ 500, 4000, quelque chose comme ça. Et il est vrai, le vrai nombre de façons est 5402. C'est une coïncidence, ça ne doit pas être aussi proche que ça, mais si le modèle aléatoire n'était pas fiable, ce serait une surprise que le nombre était assez proche de ce que le modèle prévoit. Et donc, A devient beaucoup plus crédible. Surtout si on voit il y a beaucoup de nombres et le modèle donne des réponses, des très bonnes réponses pour tous ces nombres. Et c'est pour cette raison que même si on commence à ne pas être sûr de la vérité de la conjecture de Goldbach, après avoir fait des expériences, le niveau de confiance devient, on devient presque certain. On peut justifier ces schémas de Poya en utilisant la formule de Bayes, qui nous dit que la probabilité de A sachant B égale la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A divisé par la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A plus la probabilité de B sachant pas A multiplié par la probabilité de pas A. Et si B est une conséquence de A, la probabilité, si on sait que B est une conséquence de A, c'est important, la probabilité de B, ou notre jugement de la probabilité de B sachant A est 1 parce qu'on sait que c'est une conséquence, et la formule se simplifie, on arrive à la probabilité de A divisé par la probabilité de A plus cette expression-là. Et maintenant, on voit les deux principes de Poiré en même temps, parce que si B est assez probable en soi, la probabilité de B, sachant que A n'est pas vrai, va être assez grande, peut-être pas loin de 1. Et donc, ici, on a la probabilité de A plus quelque chose qui est proche à 1 multiplié par la probabilité de pas A. Et si on ajoute les deux, on arrive à presque 1. Donc, on a la probabilité de A divisé par un nombre qui est proche à 1, et le résultat est juste un tout petit peu plus grand que A. Et voilà le premier principe de Poiré. Et le deuxième, si P est peu probable en soi, alors la probabilité de B, sachant que A n'est pas vrai, va être très petite. Et donc, ce terme-là va disparaître, ou presque disparaître. On arrive à la probabilité de A divisé par la probabilité de A plus quelque chose qui est très petit. Et donc, le résultat va être proche à 1. On devient presque sûr que A est vrai. J'ai parlé pas mal la semaine dernière de la généralisation et le rôle de généralisation quand on devient plus... notre niveau de confiance augmente. C'est parce que si on trouve une généralisation de A qui est peut-être vraie, on a beaucoup plus d'opportunités de trouver des énoncés B, ou des conséquences de l'énoncé plus général qui sont peu probables en soi. Et c'est comme ça qu'on... alors, il va... De temps en temps, c'est difficile de trouver des conséquences de A, mais si on peut trouver un énoncé plus général qui implique A, il est plus facile de trouver des expériences ou des possibilités de... des énoncés B qui sont des conséquences de l'énoncé plus général, parce que l'énoncé plus général a plus de conséquences. Et c'est comme ça que... C'est pour ça que la généralisation est une manière de devenir plus confiant dans un énoncé mathématique. Mais ça laisse la question, comment interpréter les probabilités ? On pourrait dire, il est tentant de dire, un énoncé, dans un énoncé, soit l'énoncé est vrai, soit il est faux. S'il est vrai, la probabilité est 1. S'il est faux, la probabilité est 0. Juste pour vous montrer que cet argument-là n'est pas très convaincant, je vais faire ça. Voilà. C'est quoi la probabilité que cette pièce de monnaie est pile? Pour moi, c'est 1 ou 0, mais pour vous, c'est 1 sur 2. Donc, c'est une des interprétations de la probabilité et une mesure de ce qu'on ne sait pas. Et donc, si on ne sait pas si un énoncé mathématique est vrai ou faux, on peut parler de la probabilité. Bon, ce n'est pas évident qu'on ne peut pas parler de la probabilité. Je veux vous donner un exemple où il est clair qu'on peut parler de la probabilité sans problème. C'est un exemple un peu artificiel, mais c'est, je l'ai fait exprès. Donc, je vais prendre un nombre à la manière suivante. Je prends les deux chiffres 1 et 0, et après, fait un petit calcul de 2 puissance 1200. Et pour ça, j'utilise Wolfram Alpha sur mon ordinateur. Et je décide que je vais commencer au 201e chiffre. Et je vais prendre la suite de 5 chiffres qui commencent à la position 201. Et je vais mettre ces 5 chiffres après le 1 et le 0. Ça me donnera un nombre de 7 chiffres. Et la question est, quelle est la probabilité que ce nombre que j'ai obtenu soit un nombre premier? Et quelques observations. Le nombre va être entre 1 million et 1 million 100 000. Et en utilisant le théorème des nombres premiers, je sais que le nombre de nombres premiers entre 1 million et 1 million 100 000 va être la proportion de nombres premiers dans cet intervalle va être à peu près 7%. Et donc on pourrait dire, même si c'est déterminé en avance, on peut dire que la probabilité que n soit un nombre premier est à peu près 7%. Et en effet, n, si je fais le calcul, n égale la suite de chiffres est 06441. Je le mets après le 1 et le 0. J'arrive à ce nombre-là. Et maintenant, on peut réviser notre calcul parce que on voit que n est un nombre impair. Et si la densité de nombre premier dans l'intervalle est 7%, la densité parmi les nombres impairs dans cet intervalle va être 14%. Et je peux même voir que n n'est pas un multiple de 3, parce que 1 plus 6 plus 4 plus 4 plus 1, ça fait 16, qui n'est pas un multiple de 3. Et ça augmente un peu plus par 3 sur 2. On voit en fait que c'est un nombre premier. C'était une petite surprise, mais pas une grande surprise. Voilà. Maintenant, la probabilité que c'est un nombre premier est 1, parce qu'on a plus d'informations. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai choisi la suite du développement décimal de 2 puissance 1200? C'était pour obtenir une séquence pseudo-aléatoire. Il n'y a aucune raison de penser que si on prend une suite de chiffres du milieu d'un développement décimal d'un énorme nombre comme ça, qu'on peut dire quelque chose d'intéressant. Si par contre j'ai choisi les 5 derniers chiffres, je saurais que le nombre ne peut pas être un nombre premier parce que ce serait un nombre pair. Mais si on prend les... c'est important que il faut utiliser les ressources informatiques pour voir si n est un nombre premier. Si on voit tout de suite, si on avait des cerveaux miraculeux qui pouvaient faire des calculs comme ça tout de suite, on saurait tout de suite que n était un nombre premier, mais on n'a pas des cerveaux comme ça. On n'a même pas les ordinateurs comme ça quand les nombres sont plus grands. Et voilà. Même si n était déterminé, on le considère comme un nombre aléatoire qui n'est pas qui est assez raisonnable parce qu'il y a beaucoup d'autres manières similaires. J'aurais pu choisir une autre suite de développement de 2 puissance 1200 ou j'aurais pu prendre quelques chiffres du développement de 2 puissance 2000 ou du développement décimal de pi ou il y a beaucoup d'autres manières. Et donc, n est un exemple entre, parmi beaucoup d'exemples de suites pseudo-aléatoires. Et c'est pour ça que, pour cette raison, que c'est raisonnable de parler de la probabilité de ce contexte-là. Mais c'était un exemple assez artificiel. Si je prends un exemple plus naturel comme la conjecture de Goldbach, est-ce que je peux l'analyser de la même manière? Ce n'est pas évident. L'hypothèse que je veux proposer est qu'il faut penser plutôt à la probabilité des énoncés et pas à leur vérité. Et ce n'est pas clair que, que je peux faire ça, mais la raison que je pense que c'est raisonnable est grâce à ce principe informel que j'ai observé pendant toute mon carrière, et que il faut dire un peu plus ce que je veux dire par ce principe, mais en gros, si on voit une coïncidence très très remarquable, il y a toujours une explication. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez remarquable en soi, et donc il demande une explication, mais je n'ai pas l'explication de pourquoi le principe est vrai, mais je pense que j'ai vu autant d'exemples de ce principe que je le crois fortement. Et étant donné ce principe-là, on a le corollaire que si on a un énoncé et si pour que l'énoncé soit faux, il faudrait des coïncidences remarquables, il faudrait des explications des coïncidences remarquables. Et donc, si on juge qu'il est peu probable que les explications de ce type-là existent, alors, grâce au principe, il est peu probable que l'énoncé P est vrai. Donc, c'est... Je veux vous donner un exemple pour vous montrer pourquoi comment utiliser cette idée. Soit P est l'énoncé qu'il y a un nombre infini de 7 dans le développement décimal de pi. Si pi est un nombre normal, on peut dire des choses beaucoup plus fortes que ça, mais fortes. Mais voilà. Pour que p soit faux, il faudrait que, après un certain point, il n'y aurait plus de 7 dans le développement. Mais si le développement décimal de pi est assez aléatoire, et toute l'évidence qu'on voit avec l'aide des ordinateurs suggère que c'est le cas, ce serait une vraie coïncidence. La probabilité de ne pas avoir les 7 serait 0. C'était un miracle le plus miraculeux qu'on peut avoir. Donc, il y aurait forcément, par le principe, une explication, mais il n'y a aucun signe qu'une explication de tel type, de type qui serait nécessaire, existe. On a beaucoup d'autres nombres, comme la racine carrée de 2, choses comme ça, et il y a vraiment... pour commencer, personne n'a trouvé aucune raison qui nous donnerait une coïncidence comme ça. Mais aussi, si toutes les expériences qu'on a faites avec les ordinateurs suggèrent que le développement décimal est assez aléatoire, il n'y a aucune raison de penser qu'il serait une explication que, en fait, ce n'est pas aléatoire. Donc, c'est mon premier exemple. Mon deuxième exemple, si je vous montre cet énoncé-là, ça dépend de ce que vous savez en avance. Mais ici, on a un nombre un peu bizarre, pi multiplié par la racine carrée de 163, et on prend l'exponentielle, e puissance pi multiplié par la racine carrée de 163. Et si on prend en général un nombre un peu bizarre qu'on fait avec e pi, la racine carrée d'un entier, choses comme ça, normalement, on n'aura pas un nombre réel qui est très proche à un entier. Ici, on a un nombre... Bien, l'énoncé dit que ce nombre-là est très, très, très proche à un entier. Bien. En utilisant le principe, on dirait que si c'est vrai, il doit y avoir une explication. Il n'y a pas beaucoup d'explications des inégalités comme ça, mais il est imaginable qu'une explication comme ça existe pour certains nombres, peut-être. Alors, si on ne sait pas s'il y a une explication, ce n'est pas très probable. Et si j'avais écrit la racine carrée de 165, ou beaucoup d'autres nombres, ce serait faux, mais il s'avère d'être vrai. Ça, c'est une approximation de ce nombre-là, qui on voit est très, très, très proche à un entier. Donc, il doit y avoir des raisons pour cela, si on croit au principe. Et il y a une explication. Je ne vais pas vous le donner, c'est assez compliqué. Mais c'est lié au fait que j'ai écrit là. Le nombre 163 est un nombre spécial. Et une fois qu'on sait que le nombre 163 est un nombre spécial, on peut commencer à imaginer peut-être qu'il soit une explication, qu'il a d'autres propriétés spéciales comme ça. Et c'est le cas. Et, si j'avais commencé par dire est-ce que Q est vrai ? Et juste pour vous informer, 163 est un nombre spécial, votre perception de la probabilité aurait été différente. Maintenant, je veux parler un peu d'un paradoxe qu'il faut... chaque fois qu'on parle du problème d'induction, ce paradoxe est important. L'idée de l'induction, je veux dire l'induction scientifique, est qu'on voit que quelque chose a toujours été vrai jusqu'au présent, on pense que ça va continuer à être vrai. Le soleil s'est levé tous les matins de ma vie, je pense que le soleil va se lever demain. C'est le principe d'induction. Mais Goodman a observé que ça dépend beaucoup de l'énoncé qu'on considère. Il a inventé un adjectif grew en anglais. Ça commence avec les lettres de green et finit avec les lettres de blue. En français, j'ai dit bleu. Et ça veut dire vert jusqu'à un certain point et bleu après. On peut dire, par exemple, vert jusqu'à 2050 et bleu après. Et si on veut savoir si chaque émeraude qu'on a vue est verte, et donc on croit que les émeraudes sont en général vertes. Mais chaque émeraude qu'on n'a jamais vue est bleue. Et on ne croit pas que les émeraudes vont être bleues après l'année 2050. Donc, la forme de l'énoncé est importante. Et c'est clair que la raison est que l'énoncé que les émeraudes sont bleues est d'une certaine façon pas très naturelle. Mais décider ce que veut dire un énoncé naturel n'est pas très facile. Ici, j'ai un exemple plus mathématique d'un énoncé de type Goodman. C'est une variante de la conjecture de Goldbach. Cette fois, je dis que n, je ne vais pas dire que chaque nombre impair est la somme de deux nombres premiers. Je vais dire que chaque nombre impair est la somme de deux nombres premiers, sauf s'il est une puissance de 2 puissance 1 milliard. Donc, tous les nombres premiers qu'on connaît sont beaucoup plus petits que ce nombre-là. Donc, tout ce qu'on a vu sur les ordinateurs et les exemples de cette conjecture-là aussi, mais on ne croit pas du tout cette conjecture-là. Pourquoi ? Une raison est que c'est plus vrai qu'il faudrait avoir un miracle pour que cet énoncé soit faux, parce que si le nombre-là est la somme de deux nombres premiers, ça ne serait pas du tout un miracle. C'est exactement ce qu'on pense est le cas si les nombres premiers, si le modèle aléatoire des nombres premiers est fiable. Donc, ça, c'est une raison pour laquelle on peut distinguer entre cette conjecture-là et la conjecture de Goldbach. Mais on peut peut-être dire que les nombres premiers, le modèle aléatoire est fiable, mais autant qu'on sache, le modèle chemaléatoire est fiable aussi. C'est un modèle où, sauf si, oui, les nombres premiers sont de manière aléatoire, Mais chaque fois que x est un nombre premier de puissance blablabla, moins x n'est pas un nombre premier. Mais on voit encore que c'est un énoncé pas du tout naturel, et c'est pour ça qu'on ne le prend pas au sérieux, mais on a toujours la question, c'est quoi une hypothèse naturelle. Je veux considérer un autre exemple très bien connu parmi les mathématiciens. Ça concerne la question suivante. On prend un cercle et un certain nombre de points sur le cercle. Ici, j'ai 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et on met tous les droites entre les points et on compte le nombre de régions dans lesquelles le cercle est divisé. Si on commence avec un point, il y a une région. Si on a deux points, on a deux régions. Si on a trois points, on a un triangle. Il y a une région intérieure et trois régions à l'extérieur. On a quatre régions. Si on a quatre points, on a, en position générale, on a on a 8 points, on a 4 à l'intérieur, 4 à l'extérieur. Ici, on a 16 parce qu'il y a 1 plus 5 plus 5 plus 5. Ça fait 16. Et donc, la suite qu'on a obtenue est 1, 2, 4, 8, 16. Alors, c'est quoi l'hypothèse naturelle? C'est que je vous ai donné deux hypothèses. La première est que la formule est 2 puissance n moins 1. Et c'est vrai pour si le nombre de points est moins de 5. Et la deuxième, j'ai pris un polynôme de degré moins de 4, tel que les valeurs du polynôme sont ce qu'il faut. Bien, la deuxième hypothèse est beaucoup moins naturelle parce que pour chaque suite de 5 nombres, je peux trouver un tel polynôme. Et donc, ce n'est pas surprenant que les 5 nombres là sont d'accord avec ce polynôme, parce que je l'ai choisi comme ça, mais c'est un peu plus surprenant qu'on a des puissances de 2. Mais ce que je veux vous convaincre est que notre perception de ce qui est naturel peut changer. Bien, on va réfléchir un tout petit peu plus. Oups. Voici une formule pour le polynôme P. Si on l'écrit comme ça, on voit, si on fait un peu de mathématiques, on peut voir que la raison pour laquelle ce polynôme-là commence avec les puissances de 2 et après ça s'arrête. Voici une observation un peu troublante. Si on ne prend pas de points, le nombre de points est 0, on a toujours une région. Mais 2 puissance 0 moins 1 égale 1 sur 2. Ça n'égale pas 1. C'est un peu problématique, mais on pourrait dire peut-être que 0 est un nombre spécial, peut-être on ne pense pas que ça va vraiment être... la formule va toujours être valide quand on n'a pas de points. Mais P de 0 égale 1. Alors, continuons. Voici une observation un peu plus problématique pour l'hypothèse que le nombre est donné par les puissances de 2, parce que on peut voir assez facilement que le nombre de régions est au plus ce que j'ai écrit là. C'est parce que, je vais juste retourner à ce diagramme-là. Ici, n est 5. À chaque point là, on a n régions. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais surcompter, je vais compter les régions plus d'une fois. Alors, le nombre de régions qui ont un sommet à la frontière sur le cercle est au plus n carré. Et chaque autre région, si on a un sommet qui est un croisement de deux des droites, et le nombre de croisements est au plus n, 4 parmi n, parce que je dois choisir les 4 points pour obtenir les deux droites. Et le nombre de régions pour chaque croisement est 4, et donc le nombre de régions est au plus n carré, plus 4 fois 4 parmi n. Et on peut vérifier que n carré plus 4 voilà, est au plus n puissance 4. Et quand n est grand, n puissance 4 est beaucoup plus petit que 2 puissance n moins 1. N puissance 4, c'est un polynôme. Et 2 puissance n moins 1, c'est une fonction exponentielle. Et donc maintenant, on sait que la première hypothèse ne peut pas être vraie. Et tout d'un coup, l'hypothèse que c'est le polynôme P de n devient très, très naturelle. C'est exactement ce qu'on pense va être le cas. Et c'est le cas. Si n égale 6, le nombre de régions est 31, et P de 6 est 31. Et il y a une preuve que le nombre est toujours P de n. Voilà. Mais j'ai utilisé, pour être presque sûr, j'ai utilisé un autre principe qui est presque toujours, si une suite ou même un autre objet mathématique se produit d'une façon naturelle, on a toujours la situation où on a une belle formule plus une erreur qui est quasi aléatoire. L'erreur peut être zéro, si on a une belle formule qui donne la réponse exacte. Mais c'est vraiment une situation qui arrive presque tout le temps. Par exemple, les nombres premiers, il y a une formule pour le n-ième nombre premier, c'est n fois le logarithme de n, qui n'est pas exact, mais la différence est assez aléatoire. Mais maintenant, je vais parler un peu plus de la différence entre un énoncé naturel et un énoncé artificiel en mathématiques. Je veux utiliser l'idée des analogues avec des chiffres, des suites de chiffres. C'est quelque chose qui a Douglas Hofstadter et Melanie Mitchell ont écrit un logiciel très intéressant pour résoudre des problèmes de ce type-là. Ici, on peut le lire comme ABC est à ABD ce que HIJ est à quoi ? Et la réponse évidente est HIK. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Et je veux suggérer quelques réponses possibles. Bien. Et je vais commencer avec des réponses un peu bêtes. Ma première réponse, ABD. parce qu'on remplace la suite par ABD. Deuxième réponse, ABD, CCC, DDD, parce que j'ai remplacé la troisième lettre par D. Ici, j'ai remplacé, qu'est-ce que j'ai fait ? La troisième lettre par son successeur. C'est un peu plus naturel qu'avant, mais toujours pas terrible. Ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Il paraît que j'ai rien fait, mais j'ai remplacé la dernière lettre par un D. Mais c'était un D avant, alors rien n'est changé. Ici, j'ai remplacé la dernière lettre par son successeur. Ici, j'ai remplacé tous les C par les D. Ou peut-être tous les C par leur successeur. C'est la même chose, ici. Ici, j'ai remplacé toutes les lettres dans le dernier groupe par leur successeur. Ça, c'est pas mal. Mais ce n'est pas la meilleure réponse. La meilleure réponse est cela, parce que le nombre de lettres augmente par 1 chaque fois dans chaque groupe. Donc j'ai remplacé le dernier groupe de lettres par ce qui serait le prochain groupe si je continuais la suite. Et l'idée est que chaque réponse est un peu plus abstraite que la réponse précédente. Et ici, je veux dire ce que je veux dire par abstrait. C'est quoi une... Donc, en rouge, j'ai mis des constantes. C'est des choses qui ne changent pas, même si la suite de lettres change. Donc, ici, j'ai utilisé la règle de remplacer par ABD n'importe quelle soit la suite qu'on a. Ici, le numéro 3 ne change pas et le D ne change pas. Alors, on a les constantes. Ici, le numéro 3 ne change pas, mais son successeur va changer. Si j'avais une autre lettre là, le successeur serait différent. Donc, j'ai quelque chose qui dépend de la suite de lettres. Ici, voilà, ça continue comme ça. Dernière, ça dépend de la suite, mais le D ne dépend pas. Ici, je commence à avoir des choses encore plus abstraites. On peut dire que la notion de groupe est une notion un peu plus profonde. La dépendance d'une groupe sur la suite est plus profonde que la notion de, par exemple, successeur. Successeur, même si le successeur change, l'opération de prendre le successeur ne change pas. C'est ça que je veux dire. Alors, on arrive ici à le dernier, c'est assez abstrait, mais l'idée du groupe de lettres et le prochain groupe est beaucoup plus abstrait, dépend d'une façon très intéressante sur la suite de lettres. Je pourrais dire plus sur cela, mais je n'ai pas beaucoup plus de temps. Je vais vous donner un exemple mathématique de ce phénomène. Voilà deux énoncés. Il s'avère que le deuxième est faux. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Mais ce qui importe ici est que le deuxième est moins naturel que le premier. Mais pourquoi ? Parce que 5 est une constante, et 2 est une constante aussi. Mais je peux reformuler le théorème comme ça. Et on voit que le 2 n'était pas vraiment une constante parce que l'idée de l'inverse de A dépend du définition. C'est quelque chose de fondamental dans la définition d'un groupe. Donc, mais ça, je ne peux pas le reformuler d'une telle manière. Je pourrais dire A égale A puissance moins 4, mais 4 est toujours un constant un peu artificiel. Et voilà, c'est juste pour vous rappeler des choses que j'ai essayé de dire aujourd'hui.